Bonjour, je suis Fred Cavazza, vous écoutez Super Daily et nous sommes en direct du Blend Web Mix.
C'est le Super Daily, Super Daily, c'est le Super Daily.
Toute l'actu social média, servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis accompagné d'Adjan Chélil et nous sommes en direct de la conférence Blend Web Mix à Lyon. Salut Adjan, tu vas bien ?
Salut Thibaut, ça va super, ouais. Très belle conférence, on a hâte d'assister à tout ça, on va voir un petit peu du beau monde et puis... Puis pour l'instant, rien à redire, c'est cool.
Et en parlant de beau monde, ce matin, on va parler réalité virtuelle et nous avons la crème de la crème des experts sur le sujet. J'ai nommé monsieur Frédéric Cavazza. Salut Frédéric, merci d'être avec nous dans le Super Daily.
Bonjour à tous et merci de m'avoir invité.
On est très très content de t'accueillir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Fred, je peux t'appeler Fred ou pas ?
Oui, bien sûr.
Parce que j'ai vu que ton nom de domaine, hein, c'est fredcavazza.net. Donc, allez, je me permets. Fred, tu es un expert des usages numériques et de la transformation digitale. Tu bosses dans le web depuis plus de 20 ans. Tu es associé fondateur de CISC, qui est un accélérateur digital à l'attention des grandes entreprises. Tu es aussi évidemment un tweetos émérite. 153 000 abonné sur Twitter quand même et un blogueur historique. Hein, et c'est d'ailleurs via ton blog fredcavazza.net que je suis de mon côté avec plaisir. Tes prédictions dignes de Nostradamus en matière de tech et de social media. Et puis, depuis plus de 10 ans aussi, tu proposes un panorama des médias sociaux qui, pour moi, est une vraie référence en la matière. Salut Frédéric.
Bonjour à tous.
Donc, je disais, c'est un plaisir de t'accueillir à Lyon déjà. Hein, merci à toi de venir nous voir à Lyon aujourd'hui. On va parler réalité virtuelle. Et avant de commencer, je profite que nous avons un expert aujourd'hui pour que tu nous expliques en quelques mots la différence qu'il peut y avoir entre ces différents types de réalité alternative, réalité virtuelle, réalité augmentée. Et je crois même que tu parles de réalité mixte.
Oui, complètement. Alors, ce n'est pas moi qui ai posé ces définitions-là. Hein. Je les ai récupérées du marché. La réalité augmentée, c'est quand on va prendre l'environnement existant et qu'on va y rajouter des informations complémentaires. Les audioguides que vous allez dans les musées, c'est de la réalité augmentée. Sinon, un exemple plus récent, c'est les Google Glasses, où effectivement, on chausse des lunettes et on a des informations qui viennent s'incruster en plus de ce qu'on peut voir à travers. À l'opposé de ça, on a la réalité virtuelle, où là, on oublie complètement ce qui nous entoure et on va immerger l'utilisateur dans un environnement qui n'existe pas, donc qui est virtuel. Et entre les deux, on a la réalité mixte, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'environnement qui nous entoure. Donc, on a un masque et on voit au travers, mais on va augmenter cet environnement avec des objets, avec de l'information qui vont venir s'incruster dans l'environnement réel. Et là, on a encore une fois des exemples, notamment le masque de Microsoft, le HoloLens. Ils en ont sorti une seconde version où là, ça va un petit peu plus loin que simplement rajouter des informations. Là, on a des objets virtuels que l'on peut manipuler et avec lesquels on peut interagir.
Super. Alors, on parle réalité augmentée, réalité virtuelle et évidemment à l'aune des réseaux sociaux, puisque c'est ça notre sujet. Toi, de ton côté, j'ai lu sur un de tes articles que tu as un point de vue qui est que les plateformes sociales sont devenues toxiques et puis qu'il y a un repli vers les environnements virtuels. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ce que tu veux dire par là ?
Alors, ce n'est pas mon point de vue, c'est celui de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, donc ce n'est pas n'importe qui quand même. Lui-même constate qu'effectivement, le newsfeed, donc ce fil d'actualité que l'on retrouve sur Facebook, mais aussi sur Instagram, sur Snapchat et les autres, c'est devenu un endroit moins intéressant que ce qui était avant. Donc, on constate que les utilisateurs passent un petit peu plus de temps dans des environnements fermés. Donc, soit des groupes, soit des conversations qu'ils peuvent avoir avec une personne ou avec plusieurs personnes parce que la dynamique sociale y est un petit peu moins toxique, effectivement. Donc, ce n'est pas mon point de vue, c'est celui de la profession et des grands noms.
Est-ce que tu penses que les réalités augmentées, les espaces en réalité augmentée s'inscrivent clairement dans cette démarche-là de fuite de ton feed qui est devenu effectivement toxique pour aller peut-être devenir des espaces refuge en ligne où on peut échanger, socialiser
Alors, on constate aussi, déjà historiquement, on a vu le succès de plateformes de gaming comme Minecraft ou même plus récemment comme Fortnite. Effectivement, on a des utilisateurs qui passent plus de temps sur ces plateformes-là parce que c'est fun, parce qu'on y joue, parce qu'on y déconne, parce qu'on s'y sent un petit peu plus libre que, par exemple, Instagram, où il faut être beau, jeune, svelte, intelligent, et ainsi de suite. Donc, ouais, alors... il y a un petit peu moins de toxicité, un petit peu plus de spontanéité et de ludique.
Ouais, puisqu'on parle de gaming, hein, nous, c'est vrai que c'est un sujet où on avait vraiment envie de t'entendre là-dessus. On peut effectivement parler de Fortnite, hein, parce que c'est un vrai lieu. Ça, il semblerait que ça soit devenu plus qu'un lieu de jeu, que ça soit un lieu qui soit aussi un lieu de socialisation. Adjane, je crois que tu as quelques chiffres là-dessus.
Ouais, Fortnite, c'est déjà 250 millions de joueurs inscrits, ce qui est quand même assez conséquent quand on sait, par exemple, que Snapchat a 203 millions d'utilisateurs actifs. Et on dit souvent que Snapchat, c'est le réseau des jeunes, le réseau qui monte derrière Instagram et Facebook. On sent que là, quand on fait le rapport entre l'un et l'autre, Fortnite commence à prendre beaucoup plus de place. J'ai notamment vu dans le National Research Group qui a mené une enquête des conclusions qui iraient sur dans cette direction-là, le fait que Fortnite serait peut-être en train de devenir, ce que vous étiez en train de dire, le réseau social un peu de demain. Dans cette étude, on remarque justement il y a beaucoup de jeunes qui ont entre 10 et 13 ans qui sont encore souvent absents de réseaux sociaux plus classiques comme Facebook ou Instagram et qui sont déjà du coup sur Fortnite. Ils passent 25% de leur temps libre sur Fortnite. C'est énorme aussi comme temps passé sur la plateforme. Et puis, ils ne viendraient pas juste seulement pour jouer, ils viennent pour se retrouver, pour discuter, pour échanger, pour rencontrer. C'est un vrai espace de socialisation. Donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces espaces de gaming sont en train de devenir des espaces sociaux qui vont peut-être être le réseau social de demain ?
Mais carrément. Alors, il est important de préciser que on connaît aujourd'hui le succès de Fortnite, mais Fortnite, il n'est pas sorti comme ça de nulle part. C'est qu'il repose en fait sur des décennies de pratiques de jeux multijoueurs. Déjà avant que naisse le web, on avait des jeux multijoueurs textuels, hein, les Lambdamous. Donc, encore une fois, ça fait plusieurs décennies qu'on a des joueurs en ligne. Avant Fortnite, il y avait Minecraft qui était un formidable espace d'expression et de collaboration, ce que sont censés être les médias sociaux, mais qu'ils ne sont plus. Parce qu'aujourd'hui, sur les médias sociaux, par exemple Twitter, on s'insulte. Sur Instagram, on flambe. Sur Facebook, on essaye de manipuler la réalité. Donc, effectivement, ce que ne sont plus les médias sociaux, le côté expression libre, ludique, divertissement, on le retrouve sur les plateformes de jeux. Donc, on a eu Minecraft qui était et qui est encore une formidable plateforme de jeu. Aujourd'hui, effectivement, on a Fortnite qui est celui qui domine, mais on en a d'autres. On a aussi Roblox pour les un petit peu plus jeunes. Donc, ça existe, ça fonctionne et ça fonctionne à très grande échelle. On parle de centaines de millions de joueurs.
Est-ce que tu penses que ça peut marcher que dans ce sens-là ou est-ce que dans l'autre sens, Facebook qui intègre par exemple du gaming à l'intérieur de sa plateforme peut aussi s'adapter à cette sorte de révolution vers le gaming?
Pour l'instant, ils sont en phase transitoire. À une époque, Facebook intégrait de façon beaucoup plus explicite les jeux, notamment avec l'onglet jeu. Donc, on a connu les Farmville, on a connu tous les jeux qui ont été intégrés. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de succès ou de visibilité pour ces jeux-là. Ils sont en train de préparer la suite. Mais ce qui est certain, c'est que dans la description que tu en faisais, tu disais « Est-ce que Fortnite, potentiellement à l'avenir, ça peut... ?» Non, non, c'est le passé. Fortnite, c'est le média du 21e siècle, d'accord ? Au 20e siècle, on avait MTV, c'était l'endroit où il fallait voir, être vu, où on allait par défaut parce que c'était jeune et cool et branché et ludique. Aujourd'hui, c'est Fortnite. Sur Fortnite, on annonce la nouvelle paire de Nike, les Jordan. Sur Fortnite, on a des artistes qui lancent leurs nouveaux albums, notamment Weezer, le groupe. Mmh. Sur Fortnite, on a aussi des DJ qui se produisent. Donc, ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment un espace social, culturel, où on va pour se retrouver, où on va pour déconner ou autre.
C'est un peu la nouvelle salle d'arcade, quoi.
Mais complètement. J'ai deux ados à la maison qui ont 14 et 16 ans. Souvent, le week-end, je les vois qui sont devant Fortnite. Et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec eux, où à un moment donné, j'avais dit, c'était le samedi après-midi, hein, « Ah mais mince, mais il est 17h, t'as pas envie de sortir, je sais pas, ils sont où tes potes ?» Et Gaspard, mon fils, m'a regardé en me disant « Mais... ils sont là, je suis avec eux. » Et effectivement, ils étaient tous là, ils se parlaient avec le micro, ils ne jouaient pas réellement hein, à se tirer dessus, mais ils étaient ensemble, ils interagissaient.
Alors Fred, je te propose qu'on fasse un grand écart et qu'on bascule du côté de Facebook cette fois-ci. Oui. Puisqu'en septembre, Mark Zuckerberg, nous on l'appelle Markito, hein, on lui a donné un petit nom, il annonçait en grande pompe le lancement prochain d'Horizon. Alors Horizon, c'est quoi? C'est un univers social en réalité virtuelle, accessible via un casque type Oculus. Hein, et dans ce monde virtuel, Facebook Facebook nous promet une expérience inédite, un peu à la sauce cartoon, hein, qui mêlerait réseau social et jeux vidéo. Et là aussi, c'est intéressant parce que Horizon, Facebook nous le vend quasiment plus comme une plateforme de gaming que comme en réalité virtuelle, que comme un espace social media. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette annonce qui a été faite par Facebook de Horizon ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Horizon, c'est la continuité de tout ce qu'ils ont fait avant. En l'occurrence, ça s'appelait Oculus Spaces, il me semble. C'est également la continuité d'autres plateformes qui n'appartiennent pas à Facebook. Je pense notamment à AltVR, je pense à Rec Room, je pense à toutes ces plateformes-là. Le plus important, c'est pas de dire que c'est une plateforme de jeu. Le plus important, c'est pas jeu, c'est plateforme. C'est-à-dire que c'est un environnement dans lequel on va pouvoir faire ce qu'on veut. On va pouvoir discuter, on va pouvoir construire des applications par-dessus, on va pouvoir éventuellement faire des jeux si l'on peut. Vous noterez que ça, c'est quelque chose que Google a essayé de faire il y a 10 ans avec Lively, qui était un espèce d'environnement virtuel, plateforme, sur lequel on était censé construire et faire tout un tas de choses, bon, qui n'a pas eu le succès qu'ils espéraient. En tout cas, aujourd'hui, Facebook Horizon, c'est leur ambition, c'est de dire, on va poser les bases d'une plateforme virtuelle, après ça, vous en ferez ce que vous voudrez, sur le même modèle que Second Life, qui était un espèce de plateforme ou de média, allez, appelons ça un média, c'est-à-dire un environnement dans lequel on peut exister et on peut faire ce qu'on veut. On peut faire passer des messages, on peut discuter, on peut collaborer, on peut se divertir, on peut s'insulter, hein. On peut faire un peu tout et n'importe quoi. Bah, c'est ce qu'ils essayent de faire avec Horizon, sauf qu'ils souhaitent le faire avec les technologies modernes, donc celles de 2020, donc des casques de réalité virtuelle autonome qui fonctionnent. Ça, c'est important parce qu'ils auront mis 10 ans pour y parvenir, mais enfin, on a du matériel qui est fiable, qui ne donne pas envie de vomir et qui est économiquement à peu près abordable.
Ouais, justement, j'aimerais beaucoup qu'on parle matos parce qu'on a le sentiment que le matos, aujourd'hui, ça reste le frein hein, pour ce qui est de la réalité virtuelle. Alors, côté réalité augmentée, puisqu'on a fait le distinguo tout à l'heure, il y a pas mal d'annonces qui ont été faites dernièrement. Il y a Apple qui annonce une paire de lunettes réalité augmentée ou qui devrait, hein, c'est le buzz qui court depuis maintenant au moins un an. On parle aussi de Facebook qui s'associe avec Ray-Ban pour une nouvelle paire de lunettes en réalité augmentée. Mais côté réalité virtuelle, là, on reste sur du matos qui est très, très imposant. Hein, ces gros casques à façon Oculus. Qu'est-ce que toi, t'en penses ? Est-ce que tu penses que c'est encore un frein, ça, aujourd'hui, ou vers quelle forme de démocratisation on va ?
Il y a un frein économique qui est évident. Aujourd'hui, un casque qui tienne à peu près la route, je crois que c'est 450€, l'Oculus Quest, donc c'est pas anodin. Surtout quand on nous impose de changer de smartphone tous les ans, des smartphones qui aujourd'hui coûtent 800 000€ pour les modèles les plus premium, donc ça fait beaucoup d'argent à sortir. C'est pas n'importe qui peut se payer ça. Après ça, effectivement, à une époque, on se disait que la réalité augmentée serait prête avant la réalité virtuelle. C'est l'inverse. On a aujourd'hui enfin des casques de réalité virtuelle qui sont au point, qui sont viables économiquement. En revanche, pour la réalité augmentée, il va falloir encore patienter 4 à 5 ans. Donc, on connaît aujourd'hui la date de sortie planifiée chez Apple, c'est 2023. A priori, chez Facebook, ils disent 2022, mais à mon avis, ils auront un petit peu de retard. Chez Snapchat, qui arrive en catimini, ils progressent doucement. Donc, il nous faut encore 4 ans, à mon avis, avant d'avoir du matériel qui tienne la route.
Moi, la grosse question que je me pose, pardon, Adjane, tu voulais dire un truc ?
Ouais, je voulais juste revenir sur la démocratisation justement des casques en réalité virtuelle. Je me pose une question, parce que tu disais que c'était autour de 400-450€ les premiers prix abordables et avec quelque chose de cool. On sait que, par exemple, une PlayStation 4, c'est quand même assez cher, que beaucoup de gamins en ont chez eux et que ça se remplit sous les sapins de Noël. Pourtant, les casques réalité virtuelle, on n'en trouve pas beaucoup encore dans les foyers. Et qu'est-ce qui bloque si c'est...
Attention, parce que le PlayStation VR, ils en ont vendu 3,5 millions d'exemplaires, donc c'est pas rien quand même. Bon, à l'échelle de la planète, allez, ok, c'est une niche, soit.
par rapport
ça va venir.
France,
en fait, le problème, c'est qu'il y a un écosystème à bâtir. Un écosystème, c'est quoi ? C'est il faut suffisamment d'utilisateurs pour qu'il y ait des développeurs motivés, pour qu'ils sortent des jeux et des applications spectaculaires qui donnent envie à de nouveaux utilisateurs. Donc, on a ce problème de l'œuf ou la poule. Là, on a un petit peu du mal à amorcer la pompe. Ceci étant dit, Facebook y a beaucoup contribué, notamment avec l'Oculus Go, qui est un casque d'entrée de gamme à 250€. Il fait à peu près bien le job. Maintenant, on a l'Oculus Quest qui est, encore une fois, le premier produit que j'estime viable économiquement, fonctionnellement. Donc là, okay. On y est presque.
Moi, je me pose une grosse question sur ces casques, hein, parce qu'on parle vraiment de casques. C'est celui de l'usage, en fait. Parce que on est dans une ère du smartphone. Et pourquoi ? Parce que le smartphone, il est venu saisir aussi un besoin qui était celui de l'usage, de la mobilité, etc. J'ai l'impression, alors peut-être c'est une lecture où je suis déjà à la bourre, mais j'ai l'impression que le casque, on est dans un usage qui est totalement différent. En fait, c'est venu, oui. Est-ce que ça vient prendre une nouvelle place ou est-ce que ça vient remplacer un usage qui était déjà existant, un moment d'attention qui était déjà existant?
Alors, ça vient compléter ce qui existe déjà. Prenons l'exemple du voyage, par exemple. Si vous avez envie de voyager, vous pouvez feuilleter un magazine, National Geographic. Vous pouvez écouter un podcast avec les bruits ambiants de la rue, le machin, et ainsi de suite. Vous pouvez regarder une vidéo sur YouTube ou vous pouvez regarder un environnement recréé en 360 degrés. Là, c'est nettement plus intéressant. Donc, ça vient enrichir l'existant. À la fois pour... faire ce que j'appelle la téléportation du pauvre, c'est-à-dire que...
Attends, là, tu parles comme Mark Zuckerberg, hein, ouais, c'est ce qu'il a fait comme annonce. Ouais,
tout à fait, je vais aller visiter la Chine, je vais aller visiter l'île de Pâques avec mon casque de réalité virtuelle, on a ça. On a également des expériences qui sont tout à fait ludiques, d'immersion ou de jeu en réalité virtuelle. On a aussi de l'apprentissage, donc de la formation en réalité virtuelle. Tout ça vient compléter des choses qui existent déjà, mais on va dire en enrichissant l'expérience que l'on peut avoir.
Ok, pour revenir sur le sujet réalité augmentée, réalité virtuelle et réseaux sociaux, aujourd'hui on parle d'une grosse ère de la transparence hein, sur les réseaux sociaux, c'est le gros sujet, et du coup ben, on voit, hein, y a des formats qui explosent, des formats comme le format story qui sont vraiment des formats qui misent sur l'authenticité. On a aussi une typologie de contenu qu'on n'a jamais vu autant, c'est le face caméra fait maison, et du coup je me pose la question, est-ce que tout ça c'est pas un peu paradoxal avec les réalité virtuelle, en gros, est-ce qu'on n'a pas deux airs qui évoluent parallèlement? D'un côté, l'authenticité un peu jusqu'au boutiste des réseaux sociaux, des nouveaux formats social media, et puis d'un autre côté, les réalités virtuelles. Qu'est-ce que toi, tu en penses de tout ça?
Je pense que on commence à arriver au bout de l'exercice de je me mets en scène, notamment sur Instagram, notamment sur YouTube, avec des belles photos, avec de la vidéo face caméra. On est, je pense, dans une période de transition, et ça, on peut le voir notamment avec TikTok. Donc, sur TikTok, on a les challenges hebdomadaires. Qu'est-ce que c'est qu'un challenge, si ce n'est j'exprime ma créativité, je m'exprime avec une modalité que quelqu'un d'autre a décidé à ma place. Donc, toutes les semaines, on a soit une façon de s'habiller, soit une danse, soit un playback qui est imposé sur TikTok, et tout le monde peut participer. Mais ça, c'est pas nous. Enfin, moi, je n'y vais pas sur TikTok parce que je n'ai pas l'âge. Mais quand bien même je me prêterais à ce jeu-là, ça ne serait pas moi. Ça serait un avatar de moi, un avatar social qui ferait la danse de la semaine ou le playback de la semaine ou qui se déguiserait, enfin qui s'habillerait comme c'est préconisé dans la semaine.
Donc pour toi, c'est au même niveau qu'une danse Fortnite
avec C'est le pas au même niveau, c'est une transition. Ouais. D'accord ? On passe de « je me surexpose » avec du face caméra, avec « moi au petit-déj », »,« moi sous la douche », et ainsi de suite sur Instagram. D'un côté, il y a ça. De l'autre, il y a les environnements virtuels. Entre les deux, il y a une espèce d'avatarisation. C'est moi, mais c'est pas moi. Donc, c'est bien moi qui me filme sur TikTok, mais c'est la danse qui a été dessinée par un autre. C'est les fringues qui ont été décidées dans le challenge de la semaine. C'est une transition.
Ouais, tu vois, c'est marrant parce qu'en préparant ce sujet, on parlait avec Adjane, on se faisait la remarque que sur Fortnite, en fait, on a aussi des avatars et forcément, ces avatars, ils nous représentent peut-être davantage. En tout cas, il y a.
Ou même pas du tout, puisque moi, ce que je trouvais super intéressant sur Fortnite, c'est aussi le côté, justement, les gamins qui dépensent de l'argent pour saper leur avatar et pas forcément pour être meilleur dans le jeu. Et c'est là où je trouvais que ça emmenait aussi vers un réseau social, c'est qu'on dépense de l'argent pour l'apparence de son personnage dans le jeu.
Attention à ce que tu dis, parce que le réseau social que tu décris, ça s'appelle la vraie vie. Fonctionnellement, si je suis dehors, il fait froid, j'enfile une veste polaire, j'ai plus froid. D'accord ?
Oui.
Par contre, je vais avoir l'air un peu con avec ma veste polaire, je ne vais pas être très branché, donc je vais dépenser plus d'argent pour avoir des fringues qui vont me donner un meilleur look, qui vont me donner plus de confiance en moi, qui vont renvoyer une image par rapport aux autres personnes que je vais croiser. Ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie et personne ne le remet en cause. Par contre, quand on le fait dans Fortnite, oh, quelle connerie, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui achètent des skins virtuels pour essayer de se sentir mieux? Mais c'est la même chose, c'est rigoureusement la même chose. Fonctionnellement, si le but d'un vêtement, c'est pas avoir froid, vous achetez des polaires, c'est pas cher. Or, personne ne fait ça. Aujourd'hui, on essaye de bien se saper pour renvoyer une belle image de soi, pour avoir confiance, pour se sentir bien. C'est la même chose dans la vraie vie ou sur Fortnite. Le fait de bien se saper, c'est pareil.
Mais donc, du coup, c'est une preuve de plus que c'est un espace de socialisation.
Ah oui, carrément.
L'algorithme carrément. Moins, hein, par contre, sur les jeux de gaming. Hein, c'est la grosse différence. Hein, parce qu'il y a l'algorithme hein, qui dit que c'est un peu, aujourd'hui, nos comportements, nos usages, peut-être le contenu qu'on publie sur les réseaux sociaux. Par contre, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les réalités, les mondes sociaux qui sont disponibles en réalité virtuelle, eh ben, ils ne sont pas liés à un algorithme. Est-ce que je dis une connerie ou est-ce que l'algorithme, petit à petit, c'est lui aussi initié?
Plus ou moins, dans la mesure où, que ce soit Fortnite ou n'importe quel jeu multijoueur, hein, que ce soit PUBG ou autre, ou même Call of Duty, quand vous lancez une partie, on va essayer de faire un matchmaking. Donc on va essayer de vous mettre avec des joueurs qui sont proches géographiquement ou qui ont à peu près le même niveau. Donc il y a une décision algorithmique dans qui va se retrouver sur le même serveur. Après ça, il y a les listes d'amis, donc je peux emmener un avis avec moi. Donc, on est un peu sur les deux. Il y a les listes d'amis et il y a la sélection algorithmique de avec qui je vais rentrer en partie.
Super. Alors, allez, pour ouvrir le sujet, hein, aujourd'hui, tu dis, on en parlait tout à l'heure, hein, il ne fait pas doute que le smartphone, c'est clairement la pierre angulaire, peut-être même de notre civilisation. Hein. J'ai juste un chiffre. Les Français passent en moyenne 1h42 par jour sur le mobile, 26 jours par an, c'est quand même faramineux. Et puis, parallèlement, effectivement, on voit apparaître des nouveaux usages. On a parlé évidemment de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et puis aussi, on pourrait parler des objets connectés, les interfaces vocales, Alexa, Google Home, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ère post-smartphone. Est-ce que tu penses que ça y est, on est rentré dans cette ère-là et d'ici quelques temps, eh bien, le smartphone sera derrière nous?
Carrément. Quelque part, c'est une forme d'augmentation de notre quotidien. Je suis dans mon salon, spontanément, je vais dire « Ok, Google, quelle est la météo pour demain ?»« Ok, Google, quels sont mes rendez-vous ?» Voilà. Je le fais assis dans mon canapé sans avoir besoin de bouger. Donc fonctionnellement, j'ai augmenté les capacités de mon salon. C'est ça quelque part la réalité augmentée. Donc ça fonctionne pour les enceintes connectées qu'on a dans le salon, dans la cuisine. Ça fonctionne également pour les écouteurs qu'on se met dans les oreilles. Voilà, je vais augmenter mes oreilles parce que je peux leur parler. Je peux dire « rappelle-moi les horaires du jour, envoie un message à machin pour dire que je serai en retard à mon rendez-vous ». On est tout à fait dans cette logique d'augmentation du quotidien. Que ça soit à travers les smart earbuds, donc les écouteurs connectés, ou même les montres connectées, ou même les enceintes connectées, c'est en route. On y est.
Toi, de ton côté, à la maison, j'imagine comme un bon geek, tu as un petit peu de tout, ou alors pas du tout, ou alors justement...
Pas du tout.
Pas du tout, ouais, c'est
pas
ça.
Du tout, j'ai pas tout ça, et d'ailleurs, j'essaie d'instaurer le couvre-feu numérique, c'est-à-dire qu'à 21h30, on coupe tous les écrans.
Ah ouais, d'accord.
Pour moi, pour mes enfants...
Ah oui, le papa sévère. Voilà. Ouais, il est comme
bah
ça.
Non, c'est pas papa sévère. Non, pas du tout. C'est l'utilisateur averti qu'il sait quel dommage les écrans et les outils numériques peuvent faire sur le sommeil ou sur le cerveau. Voilà, ouais. Le cerveau, c'est un muscle, il faut l'entraîner. On ne se méfie pas assez de l'envahissement dans notre quotidien des outils numériques.
Quel usage, toi, tu fais à titre personnel hein, des réseaux sociaux, perso ou pro d'ailleurs hein, quel est ton réseau social de prédilection déjà? Où est-ce que tu es le plus actif et où est-ce que tu préfères passer du temps?
Celui sur lequel je suis plus actif, ça doit être Twitter, je pense. C'est important parce que sur mes 155 000 followers, j'ai quand même 80 000 robots qui me suivent, donc c'est important de nourrir les robots. Voilà. Non, Twitter, j'y passe beaucoup de temps. Je passe beaucoup de temps également à faire de la veille et à rédiger sur mon blog. J'y passe beaucoup de temps aussi sur l'email, qui est le premier réseau social. En tout cas, ce qui est important, c'est que j'ai un usage intensif du numérique dans la journée. Par contre, en dehors de ça, j'essaie de tout couper pour avoir un bon équilibre.
Alors, on a eu un angle un peu pessimiste hein, sur le social media et les réseaux sociaux. Moi, du coup, j'ai envie de te poser volontairement la question opposée. C'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, te donne envie de te réjouir des réseaux sociaux en 2019-2020?
C'est la diversité de ce qu'on peut y trouver. On peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Si vous allez sur YouTube... Si vous voulez voir les complotistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, ceux qui nous expliquent que les vaccins nous tuent à petit feu, bien évidemment que vous allez les voir.
Il y a de quoi se marrer en plus. Hein.
Ah, oui, ils sont rigolos. Oui. Ou pas, ou alors c'est terriblement triste ce qu'il raconte. Donc vous pouvez voir le verre à moitié vide ou vous pouvez voir le verre à moitié plein, donc ceux qui essayent d'éduquer. qui proposent des contenus pédagogiques, ceux qui essayent de divertir, ceux qui essayent d'analyser, de décrypter le quotidien. Donc, moi, ce qui me réjouit, c'est la diversité. D'accord ? Une diversité que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres médias, mais ça, on l'a oublié. Voilà, on oppose beaucoup plus volontiers la presse sérieuse, Mediapart, le canard enchaîné, oh là là, ouais, c'est du journalisme d'investigation avec des enquêtes qui durent des semaines. Bof. Écoutez, moi, j'ouvre Le Monde, Libération, il n'y a pas que des enquêtes qui durent des semaines, c'est pas vrai. Des fois, il y a des gens qui sont partisans, des fois, il y a des gens qui imposent leur point de vue. Ce sont des médias, on trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est la même chose. Pour moi, médias traditionnels, médias sociaux, il y a de la diversité. Pas la peine de caricaturer à dire « Ah, dans la presse, il n'y a que des enquêtes longues et sur les médias sociaux, il n'y a que des complotistes. » Non, il y a une grande diversité et ça me rend enthousiaste. Je suis confiant.
Frédéric, un grand merci d'avoir pris le temps de papoter avec nous ce matin. C'était vraiment top. Juste, est-ce que tu peux rappeler à ceux qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne si on souhaite suivre tes actualités, tes news, tes scoops ?
Vous pouvez aller sur mon blog, fredcavazza.net. Ça fait plus de 16 ans que je le rédige. J'ai publié presque 4000 articles.
Donc, ouais, c'est clairement... Vous pouvez aller voir. C'est clairement mythologique, hein, quasiment, hein, le blog de Fred Cavazza.
C'est une référence.
Fred, un très grand merci à toi.
Merci de m'avoir invité.
Merci,
merci beaucoup.